Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral pour cette émission Histoire d'archives où on retrouve donc Jean-Christophe Labadie, directeur des archives départementales des Alpes de Haute-Provence et accompagné aujourd'hui de Laure Franek, directrice adjointe depuis 1 an et 3 mois. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et puis, ben, aujourd'hui, c'est moi qui vous fais la régie. On salue Jean-Marc et puis on va parler donc de la matière et le bâti. C'est un événement donc, qui va avoir lieu ce samedi.
En effet, oui. Donc le 3 aux archives départementales. Donc nous proposons une journée d'études qui est consacrée, donc, comme vous l'avez dit, à la matière et au bâti. L'objectif étant de présenter donc sous différents angles le patrimoine, qu'il soit ancien ou contemporain, à travers les matériaux. Et donc cette journée donc en fait rentre dans un cadre un petit peu plus large qui est en fait un projet qui était qui est soutenu par la Conservation régionale des monuments historiques qui a pour objectif d'essayer de faire le lien entre des édifices patrimoniaux et des matériaux, en l'occurrence les carrières, hein, tout simplement, dans un projet qui s'appelle Pierre Sud, et qui avait été évoqué avec les archives départementales l'année dernière. Et puis on s'était dit il serait intéressant de monter donc une journée d'études pour un peu creuser, vous voyez, la métaphore, de creuser un petit peu le sujet et de proposer donc à ceux qui viendront écouter, hein, l'entrée est libre et gratuite, comme toujours aux archives départementales, donc venir écouter donc différentes propositions.
Bien, on va faire connaissance avec Laure Franek, donc directrice adjointe. Donc vous êtes là depuis 1 an et 3 mois. Quelle est votre spécialité, si on peut dire, au niveau des archives? C'est plutôt ce qui a rapport avec l'évêché.
Oui, enfin là, c'est pour la journée de demain. Voilà.
D'accord.
Je ne m'occupe pas que de l'évêché.
D'accord.
Voilà. Pour demain, oui, effectivement, mon propos va être d'évoquer le retour de l'évêque dans son palais épiscopal à partir de 1810 jusqu'en 1845, alors même que l'ancien palais épiscopal avait été affecté à des administrations d'État au moment de la Révolution française. Voilà, et après. Et au moment de l'Empire, hein, il y a eu une décision de Napoléon Ier de rendre le palais à l'évêque. Et les travaux ont mis beaucoup de temps avant d'aboutir. Hein, et surtout, c'était la période où il y avait Monseigneur Miollis qui mettait bien la pression pour avoir un bel évêché et donc on a vraiment les traces des courriers qui de toutes ces demandes, et c'est vraiment intéressant.
Voilà. Donc en fait, c'est une des propositions. Donc, hein, comme je l'ai dit, il y en a plusieurs. Alors, je vais peut-être balayer très rapidement le programme,
oui,
hein, comme ça les personnes qui seront intéressées pourront venir. On commence en fait par Bernard Renaud qui est un médecin, un chirurgien, qui est aussi un grand amateur d'histoire, qu'on connaît bien parce qu'il fréquente fréquemment notre service, et qui, lui, va s'intéresser donc aux matériaux de construction à travers les registres notariaux. C'est-à-dire, en fait, c'est un grand spécialiste, hein, de ce qu'on appelle les minutes notariales. Donc, il consulte ces minutes pour retrouver des documents, en général des préfets. Hein, c'était en fait des accords en fait entre quelqu'un qui veut construire et un entrepreneur, un maçon, etc. Et donc où on a mention souvent des matériaux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que lui, il couvre une période assez longue puisqu'il va travailler sur du 16e au 18e siècle. Après, on aura une autre présentation qui sera celle proposée par Sophie Chouial, donc archiviste du service, et Éric Favre, qui est un maître de conférence à l'université donc d'Aix-Marseille, qui va lui s'intéresser à la question de l'exploitation des ressources, c'est-à-dire comment les communautés, hein, tout simplement, trouvaient-elles des ressources, en particulier des pierres, pour construire leur maison. Voilà. Troisième proposition, celle qui est de Claude Badet. Donc Claude Badet, lui, est un conservateur à la retraite, un conservateur du patrimoine à la retraite, mais qui est aussi conservateur délégué des antiquités et objets d'art. Et dans ce cadre-là, lui va s'intéresser au marbre, en particulier donc le marbre, l'utilisation du marbre en Ubaye, hein, à travers donc des archives qui sont celles de la Conservation départementale des antiquités et objets d'art. Et puis, Ensuite, on va prendre un billet archéologique avec Mathias Dupuis. Alors, Mathias Dupuis est le chef du service d'archéologie du département. Et lui va s'intéresser sur un sujet qu'il connaît très très bien, celui des cathédrales en Haute-Provence, en particulier donc sur la période, donc lui c'est vraiment le Moyen-Âge, 12e, 13e siècle, sur les questions des constructions, réaménagements donc de ces édifices. Et on le connaît très bien parce qu'il travaille beaucoup sur ces cathédrales. Après, on va avoir une proposition à trois voix. Donc, proposition faite par un restaurateur, un gipier et un historien, voilà, donc qui va comment dire, nous proposer donc une présentation sur comment dire, sur l'hôtel de Mazan, voilà, je cherchais l'hôtel de Mazan à Riez, donc, et sur cette question justement des gypseries, hein, qui sont très très connues pour ceux qui s'intéressent au patrimoine. Après, nous allons rester sur Riez avec une communication de Brigitte Sabatini. Alors, Brigitte Sabatini est une maître de conférence en histoire ancienne, mais qui sort un petit peu de sa période, puisque là, elle va s'intéresser à l'histoire moderne, et en particulier à la question des bastides. Et en l'occurrence des architectures de Galais, hein, puisque c'est un peu un de ces points. Je vais laisser peut-être la parole pour la deuxième partie de la journée. Donc ça, c'était pour le matin. Vous voyez, donc
c'est plutôt
riche et dense. Et d'ailleurs, on se demande comment on va réussir à tenir les délais, parce que c'est vraiment dense au niveau effectivement des propositions.
Donc l'après-midi qui recommence à 14h, on va étudier trois études de cas à Digne à chaque fois. Donc Jean-Christophe Labadie, le directeur des archives, qui va évoquer les bâtiments publics au moment de la Révolution, donc 1790 jusqu'à la moitié du 19e siècle, donc préfecture, tribunal, et j'en oublie un.
Prison.
Ensuite, donc le retour de l'évêque dans son palais à partir de 1810 jusqu'en 1845. Je n'y reviens pas, hein, ça sera mon intervention. Ensuite, Marie-Christine Braillard, qui était l'ancienne conservatrice départementale, qui est aujourd'hui à la retraite, conservateur en chef du patrimoine honoraire, qui va évoquer le projet de la nouvelle cathédrale à Digne, le projet architectural de 1841. Et tous les débats qu'il y a eu, où est-ce qu'on allait la mettre, quel style.
Voilà. Oui, parce qu'en fait, c'est un projet, hein, c'est-à-dire que c'est une cathédrale qui n'a pas été construite, mais c'est important, hein, donc, de rappeler qu'au début du XIXe siècle, vous savez, on est dans la reconquête des âmes, hein, puisque la Révolution avait fait une œuvre de déchristianisation très importante. Et donc, pour comment dire, réussir à récupérer, entre guillemets, évidemment, ces âmes égarées suite aux affres révolutionnaires, eh bien, on trouvait que l'église, la cathédrale de l'époque, hein, donc Saint-Jérôme, était un peu petite, inadaptée, et donc il fallait une grande et belle cathédrale. Et donc il y avait deux projets, en réalité. Un premier projet qui était tout simplement de réaménager donc la cathédrale existante, et puis un deuxième projet de refaire vraiment de reconstruire, de construire une nouvelle cathédrale. Alors, on ne sait pas trop où, c'est un peu compliqué à savoir, hein, on a des plans. Mm-hmm. On nous parle d'un emplacement qui avait été sondé et on peut avoir une assise assez importante à 6 mètres de fond. On a une petite idée de l'endroit où ça pouvait être, mais enfin, voilà, c'était cette idée-là, en fait, de projet.
Ensuite, la fin de l'après-midi sera consacrée à l'aspect plus patrimonial de l'usage de la pierre. Donc Madame Bourveau, Janine Bourveau, ancienne présidente de l'association Patrimoine du Pays de Fort-Calquier, va nous parler de l'aqueduc de la mer des Fontaines à Fort-Calquier et de tous ses problèmes de maintenance au XVIIIe siècle. Ensuite, l'après-midi va se terminer avec Hélène Homps, directrice du musée de la Vallée à Barcelonnette, et qui va nous parler du patrimoine funéraire et de sa gestion dans le cadre de l'ère de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de Barcelonnette, et donc de tout l'enjeu patrimonial de ce cimetière qui comporte des tombes assez exceptionnelles. Voilà, donc ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est que c'est pas... au cours de cette journée, il y aura des échanges évidemment avec le public, et au-delà des journées, il est prévu de publier les actes, et peut-être certainement une petite exposition
itinérante,
voilà, sur kakémono, comme on a l'habitude de le faire.
Oui, parce que le vrai sujet, en fait, enfin l'un des sujets, et c'était d'ailleurs dans le projet Pierre Sud, hein, c'est-à-dire que c'est un projet opérationnel, ce n'est pas un projet d'érudit ou de scientifique pur. L'idée, c'est que le fait de justement d'être capable de repérer d'où venaient les matériaux permettrait en fait aux professionnels, donc aux actuels professionnels, hein, donc ceux qui travaillent sur le patrimoine, d'essayer de retrouver soit les mêmes matériaux, soit des matériaux voisins. Oui, c'est ça l'un des intérêts de ce projet. C'est pour ça qu'en fait, alors là, évidemment, lors de journées comme ça, vous savez, on part un petit peu, on recherche en fait des gens qui seraient évidemment capables d'évoquer ces sujets-là. Donc c'est pour ça aussi qu'on a ces périodisations qui, en gros, commencent au XIIe siècle et même en réalité concerne l'Antiquité, mais on le verra plus tard, jusque donc au XIXe siècle. Et puis donc, on va de Lubaye, Riez, on part du côté de Fort-Calquier, on reste à Digne aussi, évidemment, puisque Digne est quand même la préfecture. Mmh. Voilà, donc ça, c'est aussi un petit peu l'objet. L'objet, ce n'est pas de faire qu'une seule journée, vous voyez, c'est après de continuer le projet. Donc il y a effectivement, comme l'a dit ma collègue, la publication des actes, mais il y a aussi, donc, pour sensibiliser en fait les uns et les autres, cette idée de petite exposition itinérante qui serait sur kakémono, accompagné d'un petit livret, cette fameuse publication, qui permettrait de sensibiliser les uns et les autres, en gros les acteurs du patrimoine, quels qu'ils soient, que ce soit les scientifiques, mais aussi donc ceux qui le mettent en œuvre, c'est-à-dire que ceux qui le pratiquent, eh bien, d'avoir des éléments qui permettent en fait d'améliorer les conditions de restauration. C'était ça, c'est un des objectifs du projet. Voilà, donc nous, évidemment, nous sommes archivistes, et un archiviste, lui, quand vous lui montrez une pierre, évidemment, il est un petit peu dérouté. Alors, que fait l'archiviste? Ben, lui, il plonge dans ses archives, et on s'aperçoit, quand on a fait nos recherches, les uns et les autres, dans nos archives, qu'on a beaucoup d'informations sur justement l'origine de ces matériaux. En l'occurrence, quelquefois, les carrières sont tout à côté. Si je rentrais dans le détail, pour la période qui m'intéressait moi, donc qui est la période révolutionnaire et impériale, la plupart des matériaux viennent d'une carrière qui était en fait dans le ravin du Rouveret, qui est bien connu à Digne. C'est à quelques kilomètres d'ici. Enfin, c'est même pas très loin. C'est à quoi, 3 kilomètres. Voilà. Donc en fait, on tirait comme on pouvait, des pierres, des coteaux, et puis on est monté tout, comme ça, tout doucement jusqu'à Courbon, vous voyez, où là, il y avait des carrières. Voilà, donc, vous voyez, après, on a aussi utilisé des pierres au rocher. Alors, je ne sais pas si vous voyez, quand vous sortez de Digne, le grand rond-point de l'hôpital, vous savez, c'est le rocher Percé, ou c'est le rocher, je ne sais plus son nom. C'est un grand rocher qu'on voit sur le côté un petit peu quand on est attentif. Il y a la voie de chemin de fer et il y a le rocher juste à côté. Auparavant, le rocher, en fait, allait quasiment jusqu'à la Bléone. Il a été dégagé. Alors, est-ce qu'il a été dégagé parce qu'il a servi de carrière, ce qui est le cas, ou est-ce qu'il a été dégagé parce qu'il fallait faire la route, je ne sais pas. Mais vous voyez, il y avait comme ça des matériaux qui étaient tout à fait locaux. Quand on veut construire la préfecture, eh bien, on prend des pierres là, on va en chercher ailleurs pour ce qu'on appelle les pierres à feu, vous savez, qu'on mettait dans les foyers, dans l'âtre. Et puis, on allait chercher ce qu'on appelle les moellons. En fait, c'était des gros galets. On allait tout simplement dans le lit des eaux chaudes. Et quand on voulait du sable, on allait dans la Bléone. Vous voyez, donc c'était vraiment...
Tout était à portée de main.
Exactement. On n'allait pas très très loin parce que au 18e et au 19e, au début du 19e, les conditions de transport, les routes... Voilà, je ne vais pas vous faire les descriptions des routes telles qu'elles étaient. Mais d'abord, elles étaient rares et elles étaient souvent en très mauvais état. Les ponts... c'est un peu la même problématique, et donc on essayait d'aller au plus près pour des questions de coût. Donc, voilà. Mais ce qui est intéressant aussi, et c'est vrai autant pour moi que pour la cathédrale, on essaye quand même de faire du beau. Et on a quand même l'ambition, vous savez, les révolutionnaires, quand ils s'installent, ils ont quand même l'ambition de faire une rupture avec le passé, et donc ils ont à disposition des bâtiments qui sont issus donc de la nationalisation des biens du clergé, ce qu'on appelle les biens nationaux, donc souvent des établissements ecclésiastiques, donc des couvents, donc les Ursulines, les Récollets, les Ursulines pour ce qui est aujourd'hui la préfecture, les Récollets, ce qui est aujourd'hui le palais de justice, mais ils ont des bâtiments qui ne sont pas du tout adaptés à l'accueil d'administration. L'ancien palais épiscopal lui-même aussi est récupéré. Et puis il se dit, mais on va essayer donc de faire quelque chose qui est pratique, oui. Puis en même temps, on va essayer de faire quelque chose qui ressemble un petit peu aux ambitions qu'on porte. Voilà. Et donc, on est dans cette problématique, d'où cette idée de belle cathédrale après, hein, qui est aussi la même idée, de faire des choses qui ont de l'allure. Mais, évidemment, la réalité, vous savez, rattrape les projets. Et souvent, en fait, pour des questions d'argent, tout simplement, hein, des questions de moyens, des questions de coûts, eh bien, on recourt finalement, on fait du rafistolage. Il y a même pour la préfecture, le bâtiment avait une tour, la tour s'écroule, vous voyez, enfin, voilà, parce qu'il y a des bâtiments qui sont en très mauvais état, en fait, et vous savez, reconstruire, enfin, on ne reconstruit pas, réaménager des bâtiments qui sont eux-mêmes en mauvais état est très compliqué. Mmh. Voilà, donc ça, c'est l'un des premiers sujets. Le deuxième sujet, c'est qu'en fait, comme on n'arrive pas à aménager comme il faudrait les bâtiments, on n'arrête pas de déplacer les administrations. C'est-à-dire qu'en fait, un coup, le tribunal est là, puis un autre fois, il est là. On se dit, tiens, l'ancien tribunal, l'ancien régime qui existait, qui était en fait en face de l'actuelle cathédrale Saint-Jérôme. Hein. Il y avait un bâtiment qui était le palais de justice, si vous voulez, d'ancien régime. On se dit, bah, on va peut-être l'utiliser. Et puis après, on se dit, bah, on va faire une prison avec, vous voyez. Et puis finalement, ça ne va pas, parce que le bâtiment est en très mauvais état, ça ne convient pas, il est... Et puis, on ne veut pas faire des prisons comme sous l'ancien régime, des prisons qui étaient insalubres, vous voyez. On veut faire des choses qui ont de l'allure, parce que... Vous savez, la rédemption, on y croit, oui. Et donc, on va finalement aménager une ancienne chapelle, qui est l'actuelle prison, en fait. Hein. À l'endroit de cette prison, c'est en fait, en réalité, là-bas, c'est une chapelle. Mmh. Et puis, on a même l'idée de faire une très belle prison. Et donc, ça, c'est aussi un des projets qui n'a pas abouti, qui était de construire une prison, alors une énorme prison, hein, qui devait être faite alors, derrière l'actuel palais de justice. Donc une prison, alors au centre, en fait c'était une croix, hein, avec au centre une chapelle, des bras, quatre bras, pour les hommes, deux bras pour les hommes, deux bras pour les femmes, et surtout on souhaitait séparer, et ça c'est tout le projet révolutionnaire et impérial, c'est séparer les prévenus des condamnés. C'est-à-dire que l'idée c'était pas de mettre au même endroit ceux qu'on arrêtait mais qu'on n'avait pas jugé, de ceux qu'on avait jugés. Vous voyez, on voulait séparer la peine, en gros, hein, et la sûreté. Vous voyez, voilà. Et donc on avait l'idée de faire cette grande prison. Et puis, vous savez qu'à l'époque, les femmes, on les mettait en prison. Hein, au 19e siècle, il y a beaucoup de femmes en prison, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, on avait vraiment, l'architecte départemental avait lancé, enfin, l'ingénieur départemental avait lancé un grand projet, qui, malheureusement, n'a pas résisté à la question des coûts, parce que c'était... absolument impossible financièrement. Voilà. Mais oui, on avait comme ça toujours cette idée de faire des belles choses, parce que cette idée de prison, elle est fondamentale. Hein. C'est vraiment une chaîne. Hein. C'est la justice, c'est aussi la question de l'incarcération qui est devenue une peine, ce qui n'était pas le cas sous l'Ancien Régime. Mais vraiment avec ce souci de ne pas mélanger tout, vous voyez. Hein. Mais en réalité, alors pour ne pas mélanger, qu'est-ce qu'on avait ? On avait plusieurs prisons. Voilà. On a la prison qu'on connaît aujourd'hui à Digne, qui était donc cette ancienne chapelle, mais il y avait des prisons ailleurs, en fonction justement de la situation des individus. Voilà, donc vous voyez, c'est tout ça qu'on souhaite évoquer lors de cette journée.
Du 3 décembre.
Voilà, le 3 décembre, ce n'est pas demain, oui. Hein,
oui, c'est le samedi.
C'est samedi. Oui, c'est samedi. En fait, on est presque déjà demain en réalité, mais donc c'est samedi, donc de 9h donc, à 17h aux archives départementales. Et puis, de toute façon, on aura une publication après. Et puis, on souhaite reconduire hein, ce genre de journée. C'était le projet initial hein, quand on l'avait fait en 2012. Vous voyez, 4 ans après, on refait.
Oui, il faut voilà. Du temps alors hein, oui, pour en fait, digérer une organisation pareille.
En fait, c'est très compliqué parce qu'on a une activité normale déjà. Mmh. Les archives départementales s'occupent essentiellement d'archives et puis surtout d'archives contemporaines. Hein. Je le dis fréquemment au micro, mais la partie culturelle... Historique est une part très minoritaire de notre activité. On est 22 agents aux archives et la plupart des agents en fait travaillent soit pour accueillir le public et le servir dans les meilleures conditions en salle de lecture ou sur les archives contemporaines. La plupart des archivistes, quand on regarde, donc quand on fait le tour, on s'aperçoit que l'un travaille sur les archives fiscales, l'autre travaille sur les archives judiciaires, mais les archives d'aujourd'hui, pas celles d'il y a un siècle. Et en réalité, on travaille très très peu sur les fonds. Vous voyez, ce genre de projet est aussi une belle occasion pour nous de repartir un petit peu dans notre vocation, qui est comme l'histoire, hein, à côté des archives, et de repartir un petit peu dans des périodes et dans des fonds qu'on ne connaît pas bien, parce qu'on n'a pas l'habitude de les fréquenter. Et donc ça nous permet à la fois de, bah d'abord de mettre en valeur nos fonds d'archives anciennes, hein, parce que pour nous, quand on parle des archives de la Révolution ou des archives anciennes régimes, pour nous c'est l'histoire, c'est des archives anciennes, hein, voilà. Mm-hmm. C'est un peu différent qu'en histoire. Et puis ça nous permet aussi de voir dans quel état sont nos archives, est-ce qu'elles sont bien conditionnées, etc. Voilà, donc ça nous permet de retravailler, on peut, c'est un peu pas de labourer nos fonds. Et donc on est toujours très content aussi de faire ce genre de journée. Mais c'est vrai que vous avez raison, c'est un événement difficile à organiser. Ce n'est pas notre vocation en fait, hein, de faire un petit colloque en gros, hein, c'est, et de faire une publication derrière. Voilà. Mais on essaye de le faire le plus possible justement parce que aussi on n'est pas très nombreux dans le département à pouvoir le faire et à pouvoir l'organiser. Voilà, donc vous voyez, on a à travers les gens qu'on a cités, que moi je n'ai pas cité d'ailleurs Philippe Berton, Fabienne Galis et Philippe Rigaud, hein, ce sont des gens, vous voyez, qui travaillent chacun de leur chacun travaille de son côté, et là c'est aussi l'occasion, hein, de se regrouper, d'échanger. Et puis, comme l'a dit ma collègue, d'échanger aussi avec le public, hein, puisque à chaque communication, on prévoit, les communications durent 20 minutes. Évidemment, elles s'appuient sur des documents iconographiques. On a des belles images, et en particulier, moi, j'ai, pour ma part, hein, la plus belle image, c'est la prison, vous voyez. Hein, mais en réalité, ce n'est pas la plus belle, mais, parce que mon image ne résiste pas à côté de l'évêché. Hein, alors là, ouais, de magnifiques images. Mais c'est vrai que c'est aussi... et donc, à l'issue de ces 20 minutes, il y a 10 minutes de discussion, de questions du public. Parce que notre objectif, ce n'est pas de faire... Oui, on n'est pas un cénacle. Le but, ce n'est pas de se réunir, de se regarder dans les yeux en disant, mon Dieu, qu'est-ce qu'on est merveilleux. Vous voyez, hein, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment d'échanger. Voilà, c'est... Et puis, éventuellement, tu citais des vocations, des recherches. Vous voyez, là, je parlais tout à l'heure de cet amateur, hein, éclairé, hein, qui est ancien chirurgien. Eh bien, voilà, il y a des gens comme ça qui viennent, qui s'intéressent au patrimoine, et on est toujours très contents de les accueillir. Et on souhaiterait favoriser, évidemment, ce genre d'initiative.
Quel âge a la prison, alors ?
Alors, la prison actuelle, en fait, elle date... alors, vous savez, c'est très compliqué parce qu'il y a eu plusieurs projets, mais elle est vraiment de la période révolutionnaire. C'est-à-dire que c'est une chapelle qui devient bien nationale et qui devient donc prison. Alors, on a, là aussi, je vais montrer plusieurs aménagements, en fait. Hein. Elle évolue, en fait, mais elle prend très, très vite son plan actuel, hein, avec cette forme longue et sa cour demi-circulaire, hein, qu'on a au bout, qui existe toujours. Cette forme-là, on l'a quasiment dès le départ. Hein, donc, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit dans les projets, on a le chœur, la chapelle. Alors, on garde évidemment les murs, et puis on construit autour. Et ce qui fait que la chapelle devient qu'un élément de la prison. Voilà. C'est-à-dire que je suis sûr que si on allait un petit peu faire d'archéologie aujourd'hui, on retrouverait sans doute sur les bases les parties anciennes de la chapelle, hein, vraisemblablement. Voilà. Alors après, elle s'est développée. Hein, il y a un gros projet dans les années 1830. Où là, vraiment, on la réaménage. Et puis après, elle s'adapte en fonction aussi de la réglementation, hein, tout simplement de la question de la sûreté. Mais elle est vraiment de cette époque-là. J'allais dire presque un pis-aller au début. Hein, c'est-à-dire que c'était évidemment pas prévu de faire une prison dans une chapelle. Hein, c'était vraiment. Mais ça avait un avantage. C'était isolé. Et puis surtout, c'était pas loin de l'ancien palais de justice, de l'ancien régime, où on avait l'idée quand même d'installer la justice révolutionnaire. Donc, parce que cette question de déplacement est importante. Or, très vite, on s'est aperçu que c'était impossible. Et donc, c'est pour ça qu'on a installé, en gros, la justice dans l'ancien palais épiscopal. Et tous les projets, dont le projet que j'évoquais, le très grand projet, c'était quoi ? C'était qu'en fait, de rapprocher le plus possible le tribunal de la prison. Et pour éviter les déplacements, parce que c'était compliqué. Mais ça n'a jamais été possible, hein, puisqu'on a toujours gardé la prison là-haut. Enfin, il y avait d'autres prisons, en fait, hein, mais c'était la prison principale. Et puis le palais de justice, qui, lui, s'est déplacé, donc a été d'abord dans l'ancien palais épiscopal, et puis qu'ensuite a été à l'emplacement qu'il occupe aujourd'hui, donc, qui était donc le couvent des Récollets. Mais c'est une aussi des problématiques.
Et pour terminer la boucle, la prison est sur le rocher où il y avait le premier château et qui était aussi le palais épiscopal d'origine.
Exactement, ah, oui, c'est vrai. C'était le palais. On le voit d'ailleurs, c'est toujours indiqué, hein, il y a toujours les panneaux qui indiquent à Digne qu'il y avait l'ancien palais épiscopal.
Castrum, effectivement, épiscopalais. Voilà. Ouais,
voilà, exactement. Voilà, donc on tourne autour de ces bâtiments-là. La mairie de la Révolution, c'est pareil, la mairie, en fait, n'est pas... Alors, évidemment, pas où elle était aujourd'hui, mais vous savez, en fait, où elle était. Elle était, en fait... vous ne savez pas. Alors, en fait, c'était à l'école de musique, tout simplement. C'était la mairie.
Ah oui, bien sûr.
Et cette école de musique...
Bon sang, mais c'est bien sûr.
Oui, oui. Et cette école de musique, en fait... alors, D'après les textes, mais Guy Raymond, l'ancien archiviste de la ville de Ligne, serait bien mieux placé que moi pour en parler, mais d'après les textes, j'ai compris, mais ça sera encore à vérifier, que en fait, il y avait, c'était l'ancien emplacement de la mairie d'Ancien Régime, et que durant la Révolution, on a reconstruit une mairie, parce qu'elle n'est plus là à ce moment-là. On nous dit qu'elle est là en attendant que la mairie se reconstruise, et puis sur son ancien emplacement. Vous voyez exactement ce qu'il dit. Donc la façade qu'on a actuellement, elle date du début du 19e, hein, celle qu'on voit de l'école de musique, voilà, qui est la mairie. Voilà. Mais tous les, ce que je disais, hein, toutes les administrations se sont déplacées. Hein, c'est même très difficile de les suivre. Hein. Je ne sais pas si, quand je vais parler, ils vont comprendre quelque chose. Parce que, alors, il y a des cartes, hein, on a des cartes, heureusement. Hein. On a une belle carte de 1812 qui montre et qui identifie les bâtiments principaux. Mais ça n'arrête pas de se déplacer. Parce que là, on parle de la préfecture, etc. Mais la préfecture, d'abord, c'est une création du consulat. Donc, avant, il y a une administration départementale, qui est la chose la plus importante qui a été créée par la Révolution, hein, à côté de l'administration municipale. Celle-ci, c'est pareil. Elle se déplace, vous voyez. Alors, elle est aussi dans l'ancien palais épiscopal, vous voyez. Et puis, on la retrouve ailleurs. On a une chapelle des pénitents, qui est la chapelle des pénitents bleus, hein, qui est, en fait, à côté de l'actuel palais de justice. Cette chapelle, en fait, sert aussi pour des assemblées électorales. On pense même y faire une gendarmerie, vous voyez, hein, puisque à un moment donné, on l'a détruit. Et comme il y avait la chapelle plus une cour à côté, on pense qu'on a la place pour faire la gendarmerie. Parce que là, oui, ça serait l'idéal. On aurait le palais de justice, la gendarmerie et la prison pas très loin. Mais c'est ce qu'on a fait en réalité. Quand on réfléchit bien, dans les années 1860 et 1870, donc quand on fait la gendarmerie, qui n'est plus une gendarmerie aujourd'hui, hein, qui est en fait un bâtiment du conseil départemental, et les archives départementales en même temps, eh bien on les met derrière le palais de justice. Vous voyez, donc on essaye toujours de regrouper. En gros, on essaie de faire une cité administrative, vous voyez, mais alors avec les bâtiments dont on dispose, mais c'est un peu plus compliqué évidemment que ça, et puis surtout on ne construit rien en réalité. Vous voyez, c'est-à-dire en fait on ne fait que réaménager, à part la mairie de Digne, hein, qui est effectivement une reconstruction, mais pour le reste, c'est vraiment que du réaménagement. Et c'est l'une des problématiques, et c'est ce qui rend les choses très compliquées, c'est que les administrations se déplacent et on n'arrête pas de réaménager. Donc on essaie de faire toujours mieux. Alors vous savez, on pense, vous savez, c'est un peu toujours les projets, on se dit, on va faire ici, on va installer par exemple le tribunal civil ici, et on se dit c'est vraiment très bien, on fait un projet d'aménagement, on fait l'aménagement, puis on se rend compte que ça ne va pas du tout. Alors on déplace. Ouais. Puis finalement, on le remet, vous voyez, enfin voilà, donc c'est un peu un jeu très compliqué, mais c'est pour montrer que, vous voyez, une ville qui était une ville sous l'Ancien Régime de moyenne importance devient quand même une ville siège d'un département, vous voyez, mm-hmm. Et donc avec toutes les administrations qui se créent à ce moment-là, et donc qui demandent de la place. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a vraiment, j'allais dire, la vocation tertiaire et administrative de Digne, elle date de cette époque, voilà, et avec toutes les difficultés qu'on a, avec les moyens et les bâtiments dont on dispose. Voilà, on fait du rafistolage. Voilà.
Et pour compléter, non seulement on réaménage, mais en fait, comme il y a un souci constant d'économie, on réemploie énormément les matériaux. Et c'est très clairement dit, et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant au travers des archives de voir ça. Il y a vraiment des préconisations des architectes pour réemployer au maximum les matériaux issus de la démolition ou des réaménagements. Et ça, c'est, on ne sait plus trop faire aujourd'hui. Ouais. Et à l'époque, on savait très bien faire parce qu'il fallait faire ces économies-là.
À un moment donné, on est en train, effectivement, on refait une partie de, je crois que c'est un bâtiment de gendarmerie, et on utilise des marches qui sont devant la cathédrale, vous voyez. On démonte les marches, hein, donc, on les retaille, en fait, hein, tout simplement. De toute façon, quand on démolissait un bâtiment, soit on réemployait les matériaux, soit on les vendait, en fait, hein, tout simplement. Soit ça diminuait le prix, hein, c'est-à-dire que l'entrepreneur les récupérait, et en contrepartie, il baissait son prix de devis, vous voyez, son devis. Voilà, donc tout ça a été effectivement une pratique tout à fait normale, y compris d'ailleurs même des galets, par exemple, hein, les fameux moellons, qui étaient pris en fait, hein, dans un, comment on appelle ça, un liant. Hein, mm-hmm. Eh bien, on dégageait le liant, oui, pour récupérer le moellon. Vous voyez, on était sans arrêt dans ces questions-là, ce qui fait que, vous voyez, ça rend les choses très compliquées, ce qui explique aussi quelquefois peut-être le manque de solidité de certains bâtiments. C'est vrai qu'aussi, on rafistole beaucoup, c'est un peu compliqué, vous imaginez, construire des bâtiments début 19e siècle, c'est pas comme aujourd'hui, les moyens sont pas les mêmes, hein, on dispose pas des mêmes matériaux et des mêmes outils et des mêmes moyens, etc. Mais, voilà, on est sans arrêt, effectivement, dans cette économie. Et donc, effectivement, dans les bâtiments, on voit, hein, tout ce qu'il y a. En revanche, il y a quand même des petits éléments de luxe qui arrivent. Hein. Alors, moi, je parle que pour la préfecture qui, en fait, l'actuelle préfecture, quand on regarde bien les colonnes, hein, on a des colonnes qui sont donc en façade, hein, sur la porte principale, qui est la porte donc du préfet, hein, en fait, hein, en l'occurrence, donc la porte la plus importante, eh bien, ces colonnes et les pierres viennent, alors ce sont des pierres dites de Marseille et de Saint-Rémy-de-Provence, voilà. Alors on dit quand même qu'on a acheté ces pierres là-bas parce que c'est quand même par économie. Donc on a quand même essayé, vous voyez, même si on sort du contexte local, on achète ailleurs, mais quand même pas trop cher. Et puis on construit donc cette façade néoclassique en fait. Hein, parce qu'il n'y a pas que ces pierres-là, il n'y a pas que les colonnes et le petit chapiteau hein, néoclassique qui les surmonte. Il y a aussi les fenêtres. Hein, qui sont aussi sur une façade néoclassique, mais il est bien indiqué hein, qu'on a quand même ce souci d'économie. Alors après, quand on construit ça, on s'aperçoit qu'en fait, la chose est construite. Je crois qu'il y a eu deux réparations quasiment dans les années qu'on suivit. C'est-à-dire qu'en fait, on a construit quelque chose, mais sur quelque chose qui est visiblement pas très solide. Et donc du coup, il faut refaire à chaque fois. Et puis en plus, il y a de l'eau. Il y a de l'eau qui passe dessous. Hein, parce qu'il y avait juste après, il y avait un moulin. Donc en fait, il y a de l'eau souterraine. Vous voyez, donc tout ça est un peu compliqué. Voilà. Mais on est effectivement dans ce souci-là. Voilà. Et tout ça sera expliqué donc lors de notre journée. Voilà.
Samedi 3 décembre. Voilà. On va faire une pause musicale.
Bien sûr.
Alors, vous voulez nous présenter ce que vous avez choisi ?
Alors voilà. Donc en fait, c'est un morceau des Sparks. Hein, donc qui est un groupe. Alors en l'occurrence, le morceau date de 1973 hein, exactement. Alors c'est sur une rythme, c'est un CD. Hein, mais c'est, vous savez, la musique, c'est la mémoire aussi, c'est l'histoire. Et en l'occurrence, ça me rappelle. C'est un disque en fait que j'ai acheté en Angleterre, à Londres, dans le quartier de Soho, en 1976. Un groupe que j'avais découvert quand j'étais en colonie de vacances en 1973. Hein, l'un des moniteurs écoutait ça sans arrêt. Et donc, j'avais imprimé, vous voyez, cette musique et le groupe qui s'appelait les Sparks. Et donc, quand j'étais en Angleterre en voyage, hein, tout simplement une quinzaine de jours, eh bien, je suis tombé dans une boutique qui vendait des disques d'occasion sur ce disque-là. Et donc, évidemment, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis précipité dessus. Et donc, c'est devenu un de mes disques préférés. Alors, enfin, ce morceau est extrait hein, de cet album qui s'appelle Kimono My House, hein, et donc chanté par un groupe qui s'appelle les Sparks et qui est en fait dont le pivot sont deux frères, hein, sont les frères Maël, hein, qui sont chanteurs et musiciens. Voilà.
On les écoute.
Voilà, merci.
Heartbeat, increasing heartbeat. You hear the thunder, stampeding riders, elephants and Jackie Tigers. This town ain't big enough for the both of us. And it ain't me who's gonna lead. Choosing, the girl is choosing between the.
Vous êtes toujours sur Fréquence Mistral dans l'émission Histoire d'archives avec cette musique Sparks, donc proposée par Jean-Christophe Labadie. Merci de nous faire écouter.
Oui, c'est un peu particulier, groupe, effectivement. Voilà. Effectivement, je vois que tout le monde sourit autour de moi, mais.
Vous
savez, c'est à la fois 73. Vous voyez, quand je découvre ça, j'ai 13 ans et demi, 14 ans. Vous voyez, donc on est un petit peu. Je sortais un petit peu d'une formation, de goût plutôt classique, vous voyez, et on découvre un petit peu des nouveaux horizons. En fait, par des adultes, hein, c'est tout simplement. Et puis, vous savez, plus on vieillit, plus la musique devient un marqueur temporel. Hein. Mm-hmm. En fait, alors c'est pas de la nostalgie, hein, parce que moi, je trouve que c'est un côté très actuel hein, en réalité. Mais ça renvoie, vous voyez, à une histoire, à un itinéraire, et puis à des rencontres, etc. Donc voilà. Donc moi, j'ai un très bon souvenir de ce voyage en Angleterre en 76. C'était au moment de la grande sécheresse. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez.
Non, je ne me rappelle pas de la sécheresse.
Vous vous rappelez, parce que c'était, vous savez, il y avait même l'impôt sécheresse hein, qui avait été créé à cette occasion. Donc il faisait extrêmement chaud à Londres, dans toutes les grandes villes, hein, comme vous pouvez imaginer. Et donc, j'avais rencontré un groupe d'amis sur place, un Suisse, un Breton et un Parisien, et je suis resté comme ça 8 jours avec eux, et donc, vous voyez, c'est un petit peu une histoire, c'était tout à fait intéressant, voilà, et puis ce groupe m'est toujours resté, enfin vraiment, dans un petit coin de ma tête, j'ai toujours suivi ce groupe, alors j'aime moins ce qu'ils font depuis, on va dire, 20 ans, mais cette période-là, et surtout cet album, hein, vraiment, Kimono My House, qui est pour moi un grand album de rock, voilà.
Bien. Eh ben,
comment enchaîner
comment revenir au patrimoine voilà. Du bâti.
Voilà, oui, alors, oui, donc, effectivement, on ne peut pas raconter, évidemment, ce que les autres ont présenté. Hein, c'est un peu. Mm-hmm. Hein, le mieux, c'est de venir le découvrir, effectivement. Mais voilà, donc, c'est vrai qu'on veut continuer à. Vous savez, quand on est dans un département comme le nôtre, on a, et c'est aussi l'un des intérêts, je pense que Madame Franek ne va pas me démentir, l'un des intérêts, c'est justement de pouvoir toucher à tout, en fait. C'est-à-dire qu'on est à la fois des archivistes, mais on s'intéresse aussi au patrimoine bâti, on s'intéresse aussi au patrimoine religieux, puisque on a aussi la conservation des antiquités objets d'art dont on s'occupe. Hein, donc voilà, tous ces aspects de notre métier, hein, de notre activité, évidemment, nous permettent d'intervenir dans nos plusieurs domaines. On serait dans un très grand département, on serait de purs archivistes, vous voyez, on aurait à côté de nous d'autres personnes qui s'occuperaient justement de ce patrimoine bâti ou non bâti, de ces objets mobiliers, vous voyez. L'intérêt, c'est justement ça. Un autre intérêt, c'est qu'on se connaît tous, vous voyez, ou on se connaît très vite. Vous voyez. Moi, ce matin, je suis allé à Lincelles, vous voyez, donc...
petit village qui est de Forcalquier, Manne, après Manne.
Qui est en fait une ancienne commune hein, qui appartient maintenant à Saint-Michel Observatoire, hein, donc et j'ai rencontré deux responsables d'une association de patrimoine qui ont acheté des archives, des fonds privés en fait, hein, des archives privées, et donc voilà, c'est l'un des intérêts, c'est de pouvoir rencontrer justement des passionnés qui avaient 5 grosses boîtes d'archives, en gros 18e, 19e siècle, des archives d'une famille de la noblesse, hein, et qui se trouvant face à ces archives, ne savait pas trop quoi en faire. Donc du coup, on a prévu justement d'essayer de les classer pour voir ce qu'il y a. Il y a une très belle correspondance qui fait des centaines. Enfin, il y a une boîte entière de correspondance. Ça fait, je pense, il y avait des centaines de lettres qu'il faut reclasser, regarder ce qu'il y a. Mais il y avait surtout, alors il y avait une très très belle chose. Il y avait un document foncier, donc puisqu'il y a des livres de comptes évidemment, et dedans il y avait un beau dessin sur 2 pages d'un paysage rural avec un projet de, je pense, d'irrigation avec des barrages. Et ce qui était très intéressant, C'est que le paysage était dessiné, mais en plus vraiment avec un certain talent. Et il y avait, y compris les arbres, la petite remorque tirée par des animaux. Et je le disais justement aux personnes avec qui j'étais, que je pense qu'avec une loupe, on arriverait à savoir quels sont les animaux qui tirent cette... voilà, vous voyez, c'est tout l'intérêt de ce département, c'est justement pouvoir rencontrer comme ça très facilement des gens qui sont qui aiment le patrimoine et qui sont dans ce domaine-là, alors qui vraiment ont un intérêt. Voilà. Ailleurs, on pourrait pas le faire, on n'aurait pas le temps, vous voyez, on serait sans arrêt, parce que notre travail en réalité, c'est quoi ? C'est collecter des archives, hein, des archives d'aujourd'hui, donc en l'occurrence les archives judiciaires, les archives fiscales, les déclarations de revenus, vous voyez, des choses tout
ah
à
oui,
fait.
Ah oui, ça aussi, ça s'archive. Bien
eh ben
sûr.
Tout, oui, bien sûr. Alors, tout ne se garde pas. Hein.
Ouais.
Je lui dis aussi, pour donner un ordre d'idée, l'année dernière, on a dû rentrer... Alors, on n'a pas fait encore notre bilan annuel, hein, mais... Enfin, cette année, je veux dire. Cette année, on a dû rentrer quelques centaines de mètres d'archives. On a dû en faire détruire. Ce n'est pas nous qui les détruisons, hein, mais par les administrations, environ 1 km 2 à 1 km 4. Alors, quand on parle en kilomètres et en mètres linéaires, on parle la largeur de la boîte. Hein. Une boîte d'archives, ça fait 10 cm. En moyenne, c'est la boîte standard. Et donc, vous imaginez la destruction de 1 km 2 avec 1 km 4 de boîte, c'est-à-dire, ça fait...
Alors, comment on décide ce qui doit être détruit ?
Alors, en fait, on ne le choisit pas. En fait, on applique des textes. Hein, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, comme on ne peut pas tout garder, la question, c'est qu'est-ce qu'on doit garder ? Et donc, en général, on garde soit ce qui a un intérêt pour le droit des personnes ou le droit des administrations, évidemment, soit ce qui a un intérêt historique. Et quand c'est un intérêt historique, on se pose la question de savoir est-ce qu'on garde tout. Voilà. Parce que quelquefois, on ne peut pas tout garder, donc on va sélectionner une partie des archives. Et ça, c'est les textes qui nous le disent. Et en application de ces textes, on autorise en fait, hein, les administrations à détruire certaines de leurs archives. Et on les oblige, évidemment, enfin, ou elles sont obligées, à conserver le reste. Mais dans ce qu'elles conservent, en principe, ce qu'elle conserve, c'est ça doit être déposé aux archives départementales. C'est-à-dire qu'en fait, pour les archives fiscales, hein, je prends l'exemple des archives fiscales parce que c'est un exemple actuel, eh bien, on reçoit depuis maintenant quelques mois de gros versements d'archives hein, qui se comptent par dizaines de mètres linéaires, hein, donc de boîtes qui ont été donc archivées à une certaine époque et qui aujourd'hui ont dépassé leur utilité administrative. Hein, pour arriver donc à leur sort final. Alors le sort final, c'est soit destruction, soit versement aux archives départementales. Ce qui veut donc dire que concrètement, un service d'archives départementales n'arrête pas de recevoir des archives et que par conséquent, il a besoin toujours de place. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il se remplit le bâtiment. Voilà. Ce qui est d'ailleurs le cas aujourd'hui. On a reçu aussi beaucoup d'archives judiciaires parce que justement, avec la réorganisation, hein, vous savez, du bâtiment, en fait. Hein, vous savez qu'on a réaménagé et reconstruit un nouveau bâtiment pour le palais de justice. Eh bien, en attendant, quand le palais de justice s'est déplacé dans son bâtiment provisoire, il y avait le problème des archives qu'il fallait déplacer. Donc, une grande partie a été détruite en application des textes. Hein, et c'est vraiment des quantités importantes. Hein. J'ai signé, je crois, il y a 15 jours, hein, l'autorisation de détruire 120 mètres d'archives. 120 mètres linéaires, oui, donc 1200 boîtes, ce qui est quand même considérable. Mmh. Voilà, donc, mais à côté de ces destructions, ces éliminations dans notre jargon, eh bien, une grande partie est quand même arrivée dans notre service, les archives qu'on doit garder. Alors, soit, je vous le disais, pour le droit des personnes, le droit des administrations, et puis l'histoire. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous voyez, quand vous envoyez un document dans une administration, ça peut paraître peu intéressant aujourd'hui. Mais vous savez, des fois, on se dit, dans un siècle, quelqu'un tombera sur ce document et peut-être que lui, il trouvera un intérêt. Comme nous, on trouve un intérêt quand on regarde un livre de compte, vous voyez, qu'il y a deux siècles. Aujourd'hui, on se dirait, quel intérêt, vous voyez, sauf que quand on est sur un document qui a deux siècles, on se dit, bah, finalement, c'est intéressant, il y a beaucoup d'informations, il y a des noms, vous voyez, il y a des matières, il y a des prix, il y a des lieux, et que finalement, ça nous dit quelque chose. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on garde. Alors, c'est vrai aussi, on garde trop de choses. Hein, il y a une réflexion qui est en cours au service interministériel des archives de France, qui est le service du ministère de la Culture qui gère, en fait, hein, les archives de France. Eh bien, il y a une réflexion qui est engagée justement pour se poser la question de savoir est-ce qu'on conserve pas trop de choses Parce qu'on a, mal, je pense, hein, c'est une réflexion personnelle, hein, je pense qu'on a, on a mal anticipé la masse d'archives qui allait arriver. Il y a, quand on a réfléchi à tout ça il y a 20 ou 30 ans, je pense qu'on pensait que le numérique, vous voyez, que le développement de l'informatique allait diminuer la quantité de papier.
Et pas du tout.
Et pas du tout. C'est exactement l'inverse qui s'est passé.
C'est en double, en fait.
C'est en double, en triple, en quadruple. Et puis il y a aussi la complexification des procédures. Hein. Maintenant, quand on fait quelque chose, autrefois, il fallait, on va dire, 3 boîtes d'archives pour faire la chose. Aujourd'hui, c'est plutôt 30, vous voyez. Donc, du coup, il y a aussi ça. Et donc, on a mal anticipé cette masse absolument incroyable, y compris d'ailleurs pour les bâtiments. Hein. C'est-à-dire qu'on a construit des bâtiments. On a privilégié, en fait, dans les bâtiments, la place du visiteur, alors qu'en réalité, les visiteurs sont de moins en moins nombreux dans les salles de lecture, grâce tout simplement à la numérisation et à la mise en ligne, hein, sur les sites internet des archives. Et à l'inverse, on a sous-dimensionné les magasins, hein, où on dépose les archives, et donc ce qui fait que quasiment tous les services de France se retrouvent dans une situation très compliquée, en ayant des bâtiments saturés, ou pas loin de la saturation, c'est-à-dire en fait en ayant peu de places disponibles. Quand vous rentrez des centaines de mètres par an, vous avez besoin de place. Vous voyez, donc ce n'est pas simple. Et donc il y a effectivement une réflexion autour du sujet. Et puis vous savez, concrètement, garder des documents pour l'histoire, quand vous avez un versement qui fait 100 mètres, vous ne mettrez jamais un historien devant 100 mètres de boîte. Il va lui dire « mais je ne peux pas travailler, ce n'est pas possible ». Donc il faut trouver une solution. Alors c'était le principe de l'échantillon, hein, ce qui existe. Hein, on échantillonne en disant « on va garder une boîte tous les 10 ans, vous voyez, par exemple, mm-hmm. ou toutes les lettres A, vous voyez, quand c'est alphabétique, etc. » Donc on a ce système-là, mais qui n'est pas très satisfaisant. Et puis il y a vraisemblablement aussi des archives qu'on garde et que personne ne regarde. Vous voyez, voilà. Donc il y a aussi une réflexion à faire. Et puis enfin, un dernier point, nous sommes des services départementaux. C'est-à-dire que les archives, de leur création, hein, de la Révolution 1796, l'idée, c'était que chaque département ait son service d'archives et que donc il recueille les archives du département. Et on ne faisait pas donc de relation entre les départements. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que tous les services d'archives de France conservent exactement la même chose, mais qui concernent leur département. Alors il y a peut-être là aussi une réflexion à faire, se dire, mais ça c'est vraiment aussi une opinion personnelle, une réflexion personnelle, se dire qu'au fond, est-ce qu'il est utile que tous les départements conservent tous la même chose ? Est-ce qu'on ne peut pas dire que tel département conserve ça et que tel autre département conserve plutôt ce type d'archives, vous voyez, pour faire ce qu'on appelle, ce qu'on connaît bien d'ailleurs dans le monde des bibliothèques, hein, une conservation partagée, hein, c'est-à-dire qu'en fait, chacun conserve une collection et que l'autre ne conserve pas, ce qui permet de faire des économies de place et donc des économies d'argent, hein, tout simplement, parce que faire un bâtiment d'archives, ça coûte très cher, hein, mmh. et à faire et à entretenir après, puisque vos archives, il faut, hein, vous savez qu'il y a des conditions de conservation très, très draconiennes, hein, il faut une température donnée, une hygrométrie donnée, donc tout ça n'est pas simple.
Tiens, mais j'en aurais appris aujourd'hui, oui, voilà, hein, en une séance.
Voilà. Voilà, donc voilà, c'est pour vous dire, hein, c'est, voilà, je pourrais vous en parler des heures, hein, mais on va pas peut-être trop en dire cette fois-ci, mais voilà, donc c'est pour dire que c'est un sujet difficile, et c'est vrai que nous on conserve à peu près 11 km, on a à peu près 11 km d'archives, hein, mm-hmm. et quand vous regardez ce qui est utilisé vraiment, oui, c'est tout ça paraît dérisoire. Alors c'est vrai aussi que vous ne pouvez pas préjuger, hein, de ce que le chercheur va demander. C'est-à-dire qu'évidemment, vous ne savez pas quel type d'archives il va venir consulter. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui viennent pour les archives de la Deuxième Guerre mondiale, hein, qui se sont ouvertes. Hein, cette fois-ci, elles sont quasiment entièrement ouvertes. D'autres viendront sur des archives. On a eu évidemment la demande 14-18, vous voyez, hein, qui est importante. Et là, c'est pareil, on a mis tout en ligne. Donc cette fois-ci, les registres matricules sont consultables sur Internet. Hein, donc, on n'a plus besoin de venir les consulter.
Tout est en ligne, non ?
Alors, oui, tous nos registres matricules qui concernent en fait, en gros, les combattants des années 1860 jusqu'à 1900, de la classe 1921, donc des gens qui sont nés en 1901. Voilà, donc tout ça est en ligne, hein, vous pouvez les voir. Ça fait à peu près une cinquantaine, 55 000 images, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, donc ça, et tout ça est consultable de chez vous. Hein, vous avez la carrière des petits soldats de 14-18. Hein, et c'était un projet national. Donc chaque service d'archives a numérisé ces documents. Nous les avons indexés, c'est-à-dire que vous pouvez faire une recherche par nom, par prénom, par lieu de naissance, par lieu de résidence, par métier, etc., par niveau d'instruction. Et donc, l'objectif, c'est que tous les départements le fassent et aillent, et se retrouvent tous sur un site qui s'appelle le Grand Mémorial, où vous trouvez déjà, je crois, plus de la moitié des départements français disponibles. C'est-à-dire qu'en fait, vous tapez un nom et vous avez des réponses pour un grand nombre de départements. Vous tapez un nom, quel qu'il soit. Hein, voilà. Mmh. Et voilà. Donc ça, c'était un des objectifs aussi. Alors ça, c'est mené par Paris, hein, par le ministère de la Culture. Mais on entre, oui, dans ce projet-là. Voilà. Et ça, c'est un beau projet. Et en principe, l'idée, c'est qu'en 2018, tout soit terminé. Hein, c'est-à-dire que tous les départements soient indexés et en ligne. Voilà. Comme ça, chacun pourra faire des recherches sur son grand-père, son arrière-grand-père ou son arrière-arrière-grand-père pour les plus jeunes de nos concitoyens. Et comme ça, pourront suivre. Voilà. Alors après, il y a aussi d'autres choses qui sont en ligne. Hein, c'est les documents qui sont relatifs aux unités qu'on combattu, hein, qu'on trouve ça sur le site qui s'appelle Mémoire des Hommes, hein, qui est un site, les archives de la Défense, en fait, hein, et qui ont fait des grandes campagnes de numérisation. Et vous pouvez trouver un soldat grâce au registre matricule et suivre sa carrière, son activité grâce à ces documents qui sont en ligne. Voilà, donc si vous avez un peu de chance, tout n'a pas été malheureusement conservé. Voilà. Vous voyez, il y a effectivement cette offre numérique qui est évidemment importante et qui va continuer. Hein. Je crois que tout le monde a compris que le mouvement allait s'amplifier et que les services d'archives essayent d'accompagner aussi avec leurs moyens et avec leurs documents. Et on avait commencé par l'état civil, hein, ensuite il y a eu le cadastre, le plan des cadastres napoléoniens, les recensements de population, et maintenant vous voyez, on est sur des registres matricules. Voilà. Après, on souhaite aussi présenter des fonds qualitatifs, hein, c'est-à-dire sortir un petit peu de la masse informative et pour montrer ce qu'on a fait nous. Hein. On a par exemple sur notre site la collection de photographies de Saint-Marcel et Séric. Hein, qui était un cisteronnais.
Un inventeur,
oui,
c'est ça
oui, il a fait plusieurs choses. Mm-hmm. Et c'était un notable important cisteron qui avait de gros moyens financiers et qui a fait de très très belles photographies du département qu'on a mis en ligne. Il y en a 1675 exactement, qui concernent quand même la période 1860-1900. Sur le département et d'ailleurs en dehors du département aussi, parce qu'il s'intéressait beaucoup au patrimoine, hein, il était très, très impliqué dans ces domaines. Et puis on va en remettre encore, parce qu'on a depuis eu un complément de la collection, donc on les a numérisés, on est en train de les annexer, et on va rajouter une centaine d'images à peu près.
Donc ça, c'est sur le site.
C'est sur notre site www.archives04.fr. Mmh. Hein, vous avez ces ressources. Hein, c'est le fonds Saint-Marcel et Séric. Mmh. Moi, quand je vais faire mes inspections d'archives communales, je vérifie toujours que la commune que je vais visiter n'a pas été photographiée par... savoir si elle a été photographiée ou non par Saint-Marcel et Séric, parce que c'est de très belles images, hein, de très grande qualité souvent. Alors, il y a aussi des collections de décorations hein, qu'il avait photographiées. Il avait aussi une importante collection de vêtements militaires. Hein. Mm-hmm. Et donc, il faisait habiller ses amis avec ses vêtements pour les photographier, oui, pour voir ce que ça donnait. Alors, vous avez le pharmacien de Cisteron qui est déguisé en soldat de l'Empire. Vous voyez, voilà, mm-hmm. Et donc, il est photographié pour mettre en scène sa collection. Voilà. Donc, il y a aussi ça, mais il y a beaucoup d'images... beaucoup sur Cisteron, évidemment, hein, et autour. Je crois qu'il y en a plus de 400, mais il y en a des centaines sur le département du Verdon jusqu'à Lubaye et en dehors même, hein, puisqu'on a des vues anciennes d'Arles qui datent des années 1860. La plus ancienne photo étant sans doute une photo de prise à Marseille en 1860. Hein. Et puis, parmi les plus anciennes aussi, il y en a quelques-unes qui sont prises à Fort-Calquier. Parce qu'au départ de sa vie professionnelle, Saint-Marcel et Séric était juge, comme son père d'ailleurs. Il était juge à Fort-Calquier. Et donc, c'est comme ça qu'il a commencé donc, à photographier Fort-Calquier donc, dans les années 1860. Et on a des très, très belles vues avec une technique ancienne qui s'appelle la technique collodion humide, voilà, qui est vraiment une technique qui a disparu hein, très, très vite après, parce qu'elle était un peu compliquée. Il fallait faire le tirage du négatif sur place, vous voyez, donc c'était pas simple, mais il fallait mettre sa petite tente, vous voyez, il fallait sa petite chimie sur place, parce qu'il fallait, avant que ça soit sec, vous voyez, et donc, mais ça fait donner très très belles images, donc voilà, lui, il a travaillé sur ces domaines-là, voilà.
Vous êtes un vrai livre d'histoire, c'est extraordinaire.
Non, mais surtout, vous savez, c'est très dur de... Ces émissions d'une heure, en fait, c'est très... C'est à la fois... c'est une gageure, en fait, parce que c'est à la fois difficile à l'idée de se dire qu'on va tenir une heure. Mm-hmm. Et puis, en même temps, c'est un peu frustrant parce qu'en fait, on a tellement de choses à dire qu'on est obligé de... Et puis, il ne faut pas non plus ennuyer l'auditeur. On ne peut pas répéter s'étant trop longtemps sur un sujet parce que c'est des sujets qui sont un petit peu ardus, un peu techniques, quelquefois. Donc, du coup, voilà, il faut trouver le bon équilibre. Ce n'est pas facile, des fois. Voilà.
Oui, j'espère que... C'est pas mal, là. Vous n'êtes pas trop dispersé.
J'espère que je ne me disperse pas trop. Voilà. En tout cas, moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à le faire. Puisque quand on avait commencé ces émissions, l'objectif c'est de parler d'histoire d'archives, hein, c'était ça. Mm-hmm. Alors c'était à la fois aussi de parler des archives et d'histoire d'archives, hein, c'était un peu les deux. C'est en parler aussi du métier d'archiviste que les gens ne connaissent pas bien en fait. Mm-hmm. Hein, puisque vous savez, l'image un peu commune, c'est la poussière, alors qu'en fait quand on fait visiter notre service, les gens sont étonnés parce que, évidemment, la poussière est notre ennemi. Donc, il n'y a pas de poussière dans notre service. Au contraire, c'est un endroit très, très propre. Hein. Mm-hmm. Je vous disais que les magasins, en fait, nos magasins sont à 18 degrés en permanence avec une humidité qui est à peu près à 50%. Donc, il y a une ventilation permanente. C'est extrêmement propre. Hein. Nous allons donc fermer pendant 15 jours en janvier et pendant 15 jours, nous allons dépoussiérer nos boîtes parce qu'évidemment, il y a toujours de la poussière qui se dépose, mais c'est extrêmement propre. Hein. Le sol est nettoyé toutes les semaines. Le but, c'est justement qu'il n'y ait pas de poussière. Mais souvent, les gens ont l'image de, vous savez, des gens un peu poussiéreux, qui travaillent sur des archives un petit peu poussiéreuses, qui sont évidemment très pâles parce qu'ils ne voient jamais la lumière, voilà, avec des grandes blouses grises ou blanches, je ne sais pas. Enfin, alors, en fait, ce n'est pas du tout ça. Hein, c'est vraiment... Ça, c'est... Puis en plus, alors, c'est une image qui est véhiculée aussi par les séries françaises, hein, souvent. Vous savez, quand on dit à un fonctionnaire qu'il ne travaille pas bien, on le dit, on va te mettre aux archives, vous savez, un petit peu, c'est la relégation totale, voilà. Hein, et évidemment, c'est souvent à la cave, forcément. Hein, alors que les archives, c'est jamais à la cave, parce que la cave, c'est l'un des endroits les pires pour du papier. Hein. Les gens qui ont des caves voient très bien la difficulté qu'il y a à mettre du papier dans une cave qui est en général un peu humide, parce que le papier ne supporte pas l'humidité. C'est vraiment la pire des choses. Et donc, c'est pas un endroit où on met les archives. Voilà. Donc voilà, ouais, pour finir.
Jean-Christophe l'avait dit, merci. Et puis, on donne rendez-vous aux auditeurs samedi 3 décembre de 9h à 17h où ils ne sont pas peut-être obligés de rester toute la journée.
Non, bien sûr.
Mais
non,
choisir. Non. On peut trouver le détail
sur le site internet.
Avoir un peu les...
Oui, et puis le principe, c'est qu'en fait, on fait deux demi-journées avec une pause à l'intérieur. Donc les gens peuvent même venir, vous voyez, à l'intérieur de ces pauses. Les horaires sont indiqués sur internet. Hein, donc,
d'accord.
Donc ils peuvent rester pour deux personnes, repartir après, revenir l'après-midi. Vous voyez, donc c'est totalement libre, hein, évidemment. Hein, c'est aussi l'un des objectifs de cette journée.
Voilà, la matière et le bâti, ce sera samedi 3 aux archives départementales. On se retrouve, l'émission sera en ligne très très vite sur le site de Fréquence Mistral. Mon Dieu, on est déjà coupé. Et on se retrouvera quant à nous, pas au mois de décembre puisque ça fait office de cette mois de décembre. Et ensuite, on essaiera de voir plutôt au cours d'une matinale. À vous de choisir le jour, si c'est un jeudi ou un vendredi. Oui. Si vous préférez.
Oui, ça peut être un jeudi matin. Il n'y a pas de
problème. Ça peut être un jeudi matin.
Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème.
Voilà, ça peut être que de 9h10 à 10h. Puisque...
Eh bien, ce sera de 9h10 à 10h.
Voilà.
Un jeudi matin. Très bien.
Bonne fin de soirée et à très bientôt.
Merci à vous.
Au revoir.